Vous êtes sur RTL.
RTL. Roland-Garros 2020.
Oui, avant le Macpol, on file à Roland-Garros parce que Isabelle Langer, finalement, Hugo Gaston n'a pas dit son dernier mot face à Dominique Thiem.
Il est incroyable, hein, ce gamin de 20 ans, et il est enfin récompensé. Le mérite, ce troisième set, Hugo Gaston, qu'il vient d'enlever 7 jeux à 5 après avoir perdu les deux premiers sets. 6-4, 6-4 face au numéro 3 mondial. Lui, 239e au classement, vous imaginez un petit peu ce qu'il est en train de faire. Allez, on peut rêver, hein, ce soir, pourquoi pas.
Rêvons.
Et on verra.
Allez, rêvons pour Gaston. Merci beaucoup.
RTL dimanche soir, le Macpol.
Vincent Parisot.
Le Macpol, le magazine politique de la rédaction d'RTL, avec ce soir la Nouvelle-Calédonie qui ne veut pas quitter le giron de la France. Mais attention, on va revenir sur ce scrutin et ses conséquences parce que ce n'est pas simple. Au menu également le grand jury d'Anne Hidalgo à l'heure du passage de Paris en zone d'alerte maximale. Et puis les sénatoriales du week-end dernier. On ira voir dans les archives avec Jean-Mathieu Pernin que la Haute Assemblée a rarement fait l'unanimité.
RTL, dimanche soir,
le Macpol, Vincent Parisot.
Vous le savez, on en a parlé dans le journal, on a entendu Emmanuel Macron, la Nouvelle-Calédonie a choisi encore une fois de rester dans le giron français. Malgré une progression du vote pour l'indépendance, c'était le deuxième référendum d'autodétermination organisé ce dimanche, une mobilisation sans précédent, donc une victoire du non, 53,26% des voix, mais donc, Vincent Derosier, le oui qui progresse très largement.
Oui, le vote pour l'indépendance progresse de manière spectaculaire. Même, il gagne plus de 3 points par rapport au premier référendum organisé en 2018. On savait que le oui gagnerait du terrain, me confie un conseiller du gouvernement, mais on ne s'attendait pas à une telle progression. Le scrutin a été marqué par deux événements, un taux de participation historique, vous l'avez dit, plus de 85%, et un climat de tension très fort pendant la campagne, des drapeaux français brûlés, des polémiques à répétition, les indépendantistes accusant notamment le gouvernement de partialité parce que le drapeau français figurait par exemple sur les supports électoraux. Enfin, le scrutin très serré met en lumière une société bien divisée sur l'avenir de l'archipel. Et vous l'avez entendu à 18h, c'est aussi pour ça que les mots d'Emmanuel Macron ont été soigneusement pesés. Reconnaissance, humilité. Le chef de l'État veut absolument faire retomber la pression.
Mais alors Vincent, l'avenir c'est quoi ? L'avenir immédiat. Hein.
Des discussions à Matignon d'abord. Jean Castex a promis de réunir tous les acteurs. Vu le contexte sanitaire et la distance qui sépare la France de Nouméa, il y aura beaucoup de visioconférences, vous l'imaginez. Mais même avec le résultat du référendum, beaucoup de choses peuvent encore être discutées, négociées. Vous savez qu'aujourd'hui, l'État français assure la sécurité, la justice ou la monnaie. La France verse aussi 1,5 milliard d'euros par an, notamment pour soutenir l'industrie du nickel. Mais il reste des points de négociation. Par exemple, la gestion de l'enseignement supérieur, c'est important. Elle pourrait être transférée à la Nouvelle-Calédonie sans référendum. L'accord de Nouméa, signé en 98, le permet. Et c'est peut-être une façon de donner des gages aux indépendantistes. Plus de liberté malgré la défaite du jour.
Et alors, on n'a peut-être pas terminé avec les référendums ?
Non, il peut y avoir en effet un troisième et dernier référendum comme le prévoit l'accord de Nouméa. Le Congrès a 6 mois pour décider. Il faut pour ça un vote d'un tiers de ses membres. Ce référendum, s'il a lieu, doit être organisé au plus tard en 2022, en octobre 2022. On se projette un peu. Si le oui l'emporte dans 2 ans, la Nouvelle-Calédonie deviendrait un État souverain. Et au-delà des compétences régaliennes, elle devrait déterminer surtout les critères pour obtenir la nationalité et décider s'il est possible, pour ceux qui le souhaitent en tout cas, de conserver la nationalité française.
Décryptage signé Vincent Derosier.
RTL, dimanche soir.
Le Macpol, Vincent Parisot.
Anne Hidalgo, la maire de Paris, était donc à la mi-journée invitée du grand jury RTL Le Figaro SCI. On l'a entendu dans le journal, hein, évoquer la question des bars, des restaurants. Elle espère encore qu'ils pourront rester ouverts grâce à de nouvelles mesures barrières sanitaires. Mais il a bien sûr été question de politique et de ses éventuelles ambitions présidentielles au moment où un sondage pour le JDD, journal du dimanche, lui donne entre 9 et 13% d'intention de vote au premier tour. Alors la question de sa candidature et de ses ambitions lui a donc été posée.
Je participerai bien sûr à l'élaboration d'une offre politique. Je pense qu'il y a place pour une offre politique qui soit une offre social-démocrate, écologiste, humaniste, qui tienne compte aussi de la question des inégalités et qui soit beaucoup plus volontariste sur les transformations que nous devons entreprendre, notamment sous l'impact de cette crise écologique. Les questions de candidature, les questions d'incarnation sont totalement prématuré. Franchement, je ne vais pas vous répondre. Alors, d'abord parce que je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit. Je suis quelqu'un d'extrêmement convaincu, j'ai des valeurs et je connais suffisamment le monde politique pour savoir comment on peut être utile. Et je peux être utile là, en poussant, en aidant, en accompagnant à ce qu'il y ait une réflexion de fond. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Je pense qu'il faut aller beaucoup plus vite sur la transition écologique qu'on ne l'est aujourd'hui. Penser d'ailleurs cette transition avec l'accompagnement des emplois aussi vers une économie décarbonée.
Donc
penser la lutte contre les inégalités, penser la lutte contre les inégalités et penser le rapport à la République.
Bon. Voilà, le ni oui ni non d'Anne Hidalgo sur ses ambitions présidentielles. On va d'ailleurs y revenir avec Benjamin Sportouche, mais il a aussi été question évidemment de la situation sanitaire et elle a tenu à parler aussi notamment des facs.
La situation est très grave et là-dessus, je crois qu'il faut retirer tout esprit de, voilà, de doute en la matière. Mais si on veut être efficace, ce que j'ai dit aussi au Premier ministre, et vraiment je me réjouis de cette réunion que nous avons eue ensemble jeudi dernier, si l'on veut être efficace, il faut quand même se projeter avec 12 à 18 mois d'une situation dans laquelle il va y avoir des hauts et des bas, il va y avoir des périodes de contamination, il va falloir protéger les plus vulnérables. Se protéger dans ces 12 à 18 mois, ça veut dire avoir une méthode. Par exemple, ce que j'ai pu dire aussi au Premier ministre, c'est que dans une ville comme Paris, sur la quarantaine de clusters que nous avons, l'essentiel sont dans des lieux d'enseignement et d'enseignement supérieur. J'attends des mesures fortes, non pas de fermeture des facs, mais quand même, la situation dans les facs est aujourd'hui catastrophique. Les jeunes sont entassés dans les amphis parce qu'on n'a pas anticipé l'augmentation du nombre d'étudiants et il n'y a pas de mesures d'accompagnement.
Qu'est-ce que vous demandez comme mesure?
Donc je demande qu'il puisse y avoir des mesures, par exemple sur l'enseignement à distance, un meilleur suivi par les universités des étudiants pour qu'ils ne soient pas livrés à eux-mêmes. C'est très dur ce qui arrive aujourd'hui aussi à nos jeunes. Il faut prendre, et Paris est une ville où nous avons 330 000 étudiants, donc si je vous parle de ce sujet, c'est que l'essentiel des clusters sont là aujourd'hui sur Paris et il faut le traiter.
Voilà, urgence pour les étudiants face à l'épidémie d'Anne Hidalgo et puis bien sûr on a parlé voitures dans la capitale.
Vous voyez bien que le sujet, c'est de faire de Paris une ville qui n'est pas traversée d'est en ouest et d'ouest en est, d'ailleurs, par des véhicules thermiques qui considéreraient que traverser la ville par son cœur serait la façon la plus rapide d'aller d'un point A à un point B. Ça n'existe plus nulle part. Même dans le moindre petit village de France, il y a un contournement du centre du village. Les grandes métropoles du monde sont toutes des grandes métropoles dans lesquelles on ne traverse plus la ville par son centre avec des véhicules. D'autres véhicules sont utiles, évidemment. Je pense aux transports en commun, je pense aux taxis, je pense aux véhicules qui sont moins polluants
et
parce qu'électriques.
Si on a une voiture
voilà. Par exemple, il peut y avoir, comme on a par exemple sur la rue de Rivoli, réservé la voie de bus et la voie de taxi qui sera d'ailleurs doublée, hein, qui sera accrue. On l'a aussi réservé à des véhicules autorisés. Commerçants, etc. La fin des voitures thermiques, elle est fixée. Nous l'avons votée d'ailleurs dans la précédente mandature.
Essence et diesel.
2024, fin du diesel. 2030, fin de l'essence.
Voilà donc pour l'essentiel de ce grand jury d'Anne Hidalgo. On retrouve Benjamin Sportouche, l'un de ses intervieweurs qui a mené ce débat.
Bonsoir.
Bonsoir Benjamin. Ma question est simple. Est-ce que vous avez vu à la mi-journée, ici à RTL, une candidate à la présidentielle?
En tous les cas, je n'ai pas vu une non-candidate à la présidentielle. Elle n'a rien exclu, Anne Hidalgo. Alors bien évidemment, c'est trop tôt. Mais tout de même, c'est une miraculée de la politique. Anne Hidalgo, vous vous souvenez, je le disais en introduction de l'émission, il y a quelques mois, à peine, on ne donnait pas cher de sa peau pour la mairie de Paris, on disait qu'elle ne ferait pas un second mandat. Elle avait même appelé ça Hidalgo bashing. Et c'est vrai qu'il y avait de cela. Elle est extrêmement clivante. Mais elle a réussi eh bien, à être reconduite assez facilement, en piquant un peu quelque part le mistigri de l'écologie au vert. Maintenant, la suite. Elle est, je viens de le dire, assez clivante au plan national. Au plan local, elle s'est totalement enracinée. Les Parisiens l'apprécient, ils apprécient leur politique. Mais au-delà du périphérique, eh bien c'est différent. Et c'est, on a bien entendu tout le message qu'elle veut délivrer, elle veut être rassembleur, elle veut faire un vrai projet. Et le projet déterminera une incarnation. Mais elle ne dit pas non, sur le fait qu'elle puisse être cette incarnation. Et à la fin de l'émission, quand je lui dis Hollande et 2022, elle ne s'aventure pas trop. Elle ne pense pas que ce soit la bonne personne.
Elle ne veut pas insulter l'avenir.
Tout à fait, elle ne veut pas insulter l'avenir. Et on voit très bien qu'elle a des contacts avec Éric Piolle, parce qu'elle ne voudrait pas qu'il y ait une candidature de Yannick Jadot. Elle souhaite que ce soit Éric Piolle.
On voit qu'elle joue sa partition par rapport à la gauche, par rapport aux écologistes.
Bien sûr, elle laisse tout ouvert. Et vous avez vu, quand on lui pose la question, est-ce que vous feriez un troisième mandat à la mairie de Paris? Eh bien, là aussi, c'est assez énigmatique comme réponse.
Elle dit, je ferai pas ça toute ma vie.
Je ferai peut-être pas ça toute ma vie, mais en tous les cas, elle se laisse tout ouvert et c'est déjà assez inattendu. La gauche se cherche un leader. Ça peut être une femme. Et quand vous regardez les sondages, elle fait entre 9 et 13. Mais franchement, c'est pas si peu.
C'est vous pas déshonorant pour la gauche aujourd'hui.
Vous vous souvenez, François Hollande, 3%. Alors, ça ne veut rien dire, mais attention, soyons prudents. Encore une fois, elle a réussi à être réélue, donc elle peut nous surprendre.
RTL, dimanche soir.
Le MacPol, Vincent Parisot.
Voilà, merci à Benjamin Sportouche. On accueillera Jean-Mathieu Pernin pour parler, grâce à ses archives, des soucis du Sénat la semaine prochaine. C'est promis. Là, le programme était un petit peu chargé. On va marquer une courte pause et puis dans un instant, se préparer à refaire la planète avec Alain Bougrain-Dupour.